Vous écoutez, on lit pour vous.
Quelques pistes économiques pour contrer le vent de droite. Un texte de Mathieu Dufour et Audrey Lorrain-Lamotte paru le 15 février 2025 dans Le Devoir. Le premier est économiste et professeur agrégé à l'Université du Québec en Outaouais. La seconde est sociologue et professeur agrégé à l'Université York. Depuis le 20 janvier 2025, les médias canadiens ont, dans une proportion ahurissante, consacré leur couverture à la menace des tarifs imposés par le gouvernement Trump, reléguant au second plan les faits déjà bien documentés du viol massif des droits de la personne et des manœuvres systématiques de démantèlement de la démocratie qui se déroulent chez nos voisins du Sud. Cette disproportion, hélas, ne donne pas lieu à l'expression d'un meilleur jugement sur les actions à faire devant l'urgence économique créée par les menaces tarifaires. Bien au contraire, l'espace médiatique est saturé de propositions émanant de la classe d'affaires qui laissent présager des reculs importants sur les plans écologiques et économiques, relance des projets de GNL Québec et du projet Énergie Est, report de l'abolition de vente de véhicules à essence, abaissement des taux d'imposition des entreprises au niveau états-unien, notamment. Comme ce fut le cas durant la pandémie, cette nouvelle crise nous demande de réfléchir plus largement sur les outils économiques à notre disposition pour améliorer notre qualité de vie tout en opérant le virage écologique nécessaire. Nous pensons que les réponses doivent s'inscrire non pas dans une perspective industrielle de développement du Québec Inc., mais dans l'élargissement des modes de production et de consommation de besoins fondamentaux qui sortent de la logique du marché privé. Renforcer et multiplier ces circuits de biens et de services hors marché rendront l'économie du Québec plus résiliente face aux chocs inflationnistes et tarifaires, hier causé par la pandémie, aujourd'hui par l'extrême droite. Cet argument doit être pris au sérieux, car ces chocs ne s'estomperont pas, même dans le monde post-Trump, compte tenu d'un contexte géopolitique et écologique de plus en plus instable. Le boycottage est certes l'une des stratégies à adopter. Nous regrettons d'ailleurs que la campagne BDS, boycottage, désinvestissement et sanctions, dirigé à l'endroit d'Israël, n'ait pas connu le même engouement. Cependant, le boycottage doit s'inscrire dans une logique plus grande de transformation économique d'affranchissement de la dépendance extérieure d'une part et du renforcement de l'économie solidaire et durable écologiquement d'autre part. Plutôt que de s'en remettre au secteur privé et au soutien public dont il bénéficie, les gouvernements provinciaux et fédéraux devraient s'atteler à diminuer la place du privé dans un certain nombre de secteurs. Nous proposons la mise en place d'une société d'État, Épicerie Québec. On sait déjà que la distribution alimentaire est une activité lucrative. Pourquoi ne pas mettre en place une société d'État non monopolistique, dont le mandat serait de s'établir prioritairement dans les déserts alimentaires, de valoriser la production locale, la vente de légumes moches et de produits équitables et d'y développer des ateliers culinaires, des cuisines collectives et des lieux de transformation alimentaire consacrés aux institutions publiques, CHSLD, hôpitaux, écoles. Nous devons investir massivement dans le logement social pour atteindre la cible de 20 % de logements hors marché d'ici 15 ans, promu par le Front d'action populaire en réaménagement urbain, FRAPRU, une cible qui sera atteinte par la mise en place de moyens et de ressources humaines nécessaires à l'achat et à la conversion de terrains privés actuellement en vente, au développement de programmes de soutien et de développement de coopératives, de cohabitats et de logements sans but lucratif dans une optique ambitieuse de densification urbaine environnementalement viable, loin de l'image des blocs bétonnés construits par les plus bas soumissionnaires. Nous devons avoir un plan de revalorisation des services publics financé par une taxation massive des biens de luxe. Plus de piscines publiques, moins de piscines privées, plus de lieux de partage de savoir et d'outils, moins de garages privés, plus de transports publics, de voitures partagées, de covoiturage, moins de Tesla. Ce plan doit inclure l'intégration de milliers de professionnels qui travaillent actuellement dans le privé, psychologues, médecins, fiscalistes, architectes, ingénieurs, etc. L'État doit se doter de l'expertise nécessaire pour faire face aux multiples besoins de la population sans dépendre des contraintes propres au secteur privé. L'investissement dans des services publics de qualité devra se faire par l'humanisation et la régularisation permanente des centaines de milliers de travailleurs migrants temporaires ou non documentés qui sont actuellement traités comme une main-d'œuvre bon marché renvoyée au gré des fluctuations économiques. Un plan d'envergure d'accueil des personnes réfugiées, soutenu par des services d'intégration complets, langue, services de garde, logement, scolarisation, nous permettrait de faire amende honorable en ce qui concerne notre dette écologique à leur endroit et de rétablir les principes humanitaires dont nous nous targuons d'être des défenseurs. Ces mesures mises en place réduiraient la part des dépenses les plus importantes des ménages, soit la nourriture et l'habitation, ce qui permettrait de mieux faire face à une hausse inflationniste dans des secteurs plus difficilement contrôlables dans un marché nord-américain fortement intégré. Alimentation, logement, entraide humanitaire, trois piliers sociaux et économiques qui, sortis de la logique marchande, apportent sécurité économique et paix d'esprit nécessaires à l'épanouissement des individus et renforcent leur capacité à faire face aux défis écologiques, à contrer l'extrême droite et à consolider des solidarités ici et ailleurs. C'était « Quelques pistes économiques pour contrer le vent de droite », un texte de Mathieu Dufour et Audrey Lorrain-Lamotte paru le 15 février 2025 dans Le Devoir.
Allô, prof, plaide pour l'usage des écrans à des fins pédagogiques en classe. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. L'organisme Allô, prof, met en garde les parlementaires contre une interdiction complète de l'usage des écrans dans les écoles, rappelant que ceux-ci peuvent apporter des bénéfices documentés dans le domaine pédagogique. Nous ne cherchons pas à minimiser les problèmes que certains autres usages peuvent causer aux jeunes, a soutenu d'entrée de jeu la directrice générale d'Alloprof, Sandrine Faust, qui a témoigné à la commission spéciale sur les impacts des écrans mercredi. Elle estimait néanmoins qu'il est essentiel de présenter à la commission une distinction fondamentale entre l'usage des écrans à des fins éducatives et leurs usages purement récréatifs. Dans son mémoire, l'organisme plaide que tous les usages de l'écran ne sont pas équivalents et que les outils pédagogiques interactifs stimulent la réflexion, l'analyse et la résolution de problèmes, tout en favorisant la motivation de l'élève et en développant son autonomie. Dans l'environnement technologique, la rigueur et l'agilité sont de mise pour éviter de tomber dans les extrêmes d'une surexposition malsaine ou d'une rigidité qui risquerait de nuire au potentiel d'apprentissage des jeunes et à la perception qu'ils ont de l'école, écrivent les auteurs du mémoire, qui fait un peu moins d'une vingtaine de pages. Invités par les parlementaires à développer sur l'aspect « rigidité », dont il devrait se méfier. Le directeur Marc-Antoine Tanguay a précisé qu'il s'agit d'éviter l'autre extrême d'une interdiction totale de l'utilisation de tout écran à l'école. Le danger qu'on voit là-dedans, c'est qu'on perd le bénéfice, on est capable d'en démontrer, de l'utilisation des outils numériques pour certains apprentissages, explique-t-il. L'autre chose, poursuit-il, c'est que si l'école est complètement déphasée par rapport à ce qui existe dans la réalité extérieure chez les jeunes, ils risquent de la trouver ringarde et ça, c'est un risque qu'on peut courir et qui serait dommage. Parce que l'école doit être un chef de file là-dedans. Si elle veut être crédible pour éduquer les jeunes dans l'utilisation des appareils, elle ne peut pas se permettre de les interdire complètement. soutenir les profs. Si, à une certaine époque, AlloProf déployait ses services par téléphone, aujourd'hui, 99% du travail se fait par les écrans, pour un total de 60 millions d'accompagnements offerts à 550 000 élèves, à 420 000 par an et à près de 100 000 enseignants par an. Et 40% de ces services sont utilisés depuis l'école pendant les heures de classe, constate l'organisme. C'est souvent utilisé à travers l'enseignant, explique M. Tanguy en entrevue au Devoir. Les enseignants vont, par exemple, présenter une vidéo éducative réalisée par AlloProf pour expliquer une nouvelle notion. Ils peuvent aussi demander aux élèves de faire des exercices sur la plateforme pour valider leur compréhension d'un sujet vu en classe, illustre M. Tanguy. On sait que le fait de jouer à des jeux vidéo éducatifs sur AlloProf est une récompense assez souvent offerte le vendredi après-midi par les enseignants du primaire, un type d'usage un peu plus ludique qui va permettre quand même de consolider les apprentissages, ajoute-t-il, sur un ton plus rigolo. Sans oublier les élèves qui vont réviser le matin et sur l'heure du midi, juste avant un examen. Le directeur d'AlloProf précise par ailleurs qu'il s'agit d'une ressource importante pour accompagner les enseignants dans leur travail, arguant que 81% des enseignants disent l'utiliser. Une proportion qui augmente à 91% chez ceux qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. De nouveaux services offerts spécifiquement aux enseignants pour les aider dans leur planification de cours sont à ce point populaires que l'organisme constate une hausse record de 150% de la demande. C'était AlloProf plaide pour l'usage des écrans à des fins pédagogiques en classe, un texte de Jessica Nadeau, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.
Les super-aliments anti-âge, mythe ou réalité? Un texte d'Anne-Marie Tremblay, paru le 22 février 2025 dans Virage. Qu'ont en commun les bleuets, l'ail, le chou frisé, les noix, le citron, le chocolat noir, le thé vert et les produits fermentés? Dans des articles qui abondent sur le web, ils sont tous régulièrement listés parmi les super-aliments anti-âge, censés ralentir le vieillissement ou même faire reculer le temps. Manger pour rajeunir, mythe ou réalité? Voici un tour d'horizon avec deux expertes. Citation. Ce sont tous des aliments très sains que nous gagnerions à consommer plus souvent, confirme d'emblée Louise Lambert-Lagacé, nutritionniste, auteure et conférencière. Mais face à un problème précis, ce n'est pas la consommation d'un seul aliment qui apportera de grands changements. Ce serait un peu comme suivre une piste incomplète. Fin de citation. En effet, aucun de ces prétendus super-aliments ne contient à lui seul tous les nutriments dont l'organisme a besoin, renchérit Maryse Charron, auteure et diététiste nutritionniste chez NutriSimple. Citation. Des aliments comme les bleuets ou les noix peuvent faire partie d'un régime bénéfique grâce à leurs nutriments spécifiques, mais aucun, pris isolément, ne peut freiner le vieillissement ni faire de miracle. Fin de citation. On n'y échappe donc pas. Bien vieillir repose sur une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits, en légumes, en protéines de qualité et en acides gras essentiels, combinée à d'autres facteurs comme l'activité physique, le sommeil et la gestion du stress. C'est sans compter la génétique, un élément qui joue un rôle significatif dans le processus de vieillissement. Améliorer sa qualité de vie. Si les super-aliments anti-âge n'existent pas, bien manger permet de retarder l'apparition de problèmes causés par l'inflammation et l'usure du temps, mentionne Louise Lambert-Lagacé. Comment? En neutralisant les radicaux libres, notamment, souligne Maryse Charron. Lorsque générés en excès par le corps, ceux-ci endommagent les cellules et diminuent leur capacité à se régénérer, contribuant au vieillissement prématuré. Citation. Or, il est possible de prévenir cette oxydation en consommant des aliments riches en antioxydants, comme les fruits et les légumes. Fin de citation. Quoi mettre dans mon assiette? L'une des clés pour vieillir en santé, c'est de mettre l'équilibre au menu. Les aliments ultra-transformés sont aussi à consommer avec modération, puisqu'ils génèrent beaucoup de radicaux libres, mentionne Marie Charron. Citation. En général, il vaut mieux privilégier ce qui provient de la terre ou de la mer. Fin de citation. En voici quelques exemples. Le chou frisé, kale. Citation. Si j'avais à faire le palmarès des légumes, le chou frisé se positionnerait haut dans la liste parce qu'il est plus riche en minéraux et en vitamines, comme le fer et le magnésium, que plusieurs autres légumes. Fin de citation, lance Louise Lambert-Lagacé. De plus, le kale contient deux fois plus d'antioxydants que les autres légumes verts feuillus, ajoute Maryse Charron. En plus de jouer un rôle dans la prévention de certains cancers, des cataractes et des maladies cardiovasculaires, il contient aussi de nombreux flavonoïdes et autres antioxydants qui forment une véritable protection contre les radicaux libres, ajoute-t-elle. Le brocoli. Sa teneur élevée en vitamine A lui permettrait d'offrir un effet protecteur contre le vieillissement cutané. Les baies. Les petits fruits sont de véritables concentrés d'antioxydants. Citation. De plus, la forte teneur de la fraise en vitamine C, qui participe à la production de collagène, pourrait diminuer la sécheresse de la peau liée au vieillissement. Fin de citation, souligne Maryse Charron. Ces petites baies auraient également un effet positif sur la santé cardiovasculaire, ainsi que sur la mémoire pour le bleuet et sur le cerveau pour la framboise. Maintenant que des baies du Québec sont disponibles à l'année, il n'y a plus de raison de s'en passer, souligne Louise Lambert-Lagacé. Les aliments fermentés. Kimchi, choucroute, kéfir et yogourt contribuent à la santé du microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes vivant dans notre intestin. Citation. Les recherches montrent que le fait de bien nourrir ces bactéries améliore la santé digestive et a même un effet positif sur l'humeur. Fin de citation, note Louise Lambert-Lagacé. Sans compter que cela renforce le système immunitaire et diminue l'inflammation. Les poissons gras. Saumon, sardine, truite, maquereau, ces poissons sont riches en oméga-3, un acide gras essentiel qui manque souvent à l'appel dans l'alimentation, note Maryse Charron. Or, l'ajouter au menu a un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire, diminue l'inflammation, améliore l'humeur. Citation. Certaines études ont même démontré que la consommation de certains acides gras de la famille des oméga-3 peut ralentir le déclin des personnes présentant de légers déficits cognitifs. Fin de citation, précise-t-elle. En manger régulièrement jouerait aussi un rôle dans la prévention du vieillissement de la peau causé par les rayons du soleil. Les noix de Grenoble. Les noix de Grenoble sont également riches en oméga-3. Citation. Selon les résultats de plusieurs études, en manger 5 portions d'un quart de tasse par semaine se traduirait par une diminution du mauvais cholestérol et une légère augmentation du bon. Fin de citation, explique Marie Charron. Une étude menée aux États-Unis a même montré que les personnes qui consommaient le plus de noix, toutes catégories confondues, avaient environ 40 % moins de risque d'être touchées par une maladie coronarienne que celles qui n'en mangent pas ou très peu, ajoute-t-elle. L'avocat. Citation. L'avocat est riche en vitamines, en antioxydants et en acides gras qui contribuent à la santé de la peau, affirme Maryse Charron. Sa teneur en vitamine E et en acides gras monoinsaturés, notamment, aide à maintenir l'hydratation et l'élasticité de la peau, ce qui peut prévenir l'apparition des rides et ridules. Fin de citation. Autre avantage, ses bons gras, ses fibres et ses phytostérols diminuent aussi le cholestérol, un atout pour la santé cardiovasculaire et la longévité. Ail, chou de Bruxelles, edamame, œufs, poivrons rouges, tomates, raisins rouges et poivrons rouges auraient tous pu figurer dans cette liste qui est loin d'être exhaustive, note Maryse Charron. Citation. La nature a créé des aliments aux vertus parfois encore insoupçonnées. Fin de citation. Pourquoi ne pas s'en inspirer pour varier les plaisirs et en décupler les bénéfices? Le régime méditerranéen. Pour son plus récent livre, Louise Lambert-Lagacé s'est rendue jusqu'à Bologne en Italie pour rencontrer une équipe de recherche ayant mesuré l'effet du régime méditerranéen sur 1250 personnes âgées de 65 à 79 ans provenant de 5 pays. La moitié du groupe s'est conformée à cette façon de s'alimenter qui met à l'honneur légumes, fruits, poissons, produits laitiers, protéines maigres, céréales entières, légumineuses et bons gras, comme l'huile d'olive. Au bout de 12 mois, rapporte la nutritionniste, les spécialistes ont mesuré plusieurs améliorations au sein du groupe ayant adopté cette diète, comme une diminution de la pression, de la rigidité artérielle, des risques de perte musculaire, des marqueurs d'inflammation, ainsi qu'un ralentissement de la perte osseuse et une amélioration de la réponse immunitaire. Même leur mémoire s'est améliorée, et ce, simplement en modifiant le contenu de leur assiette. Citation. « Il n'y a pas une pilule qui peut faire cela. » Fin de citation, s'exclame-t-elle. De quoi s'inspirer pour conserver sa qualité de vie au passage des années? C'était « Les super-aliments anti-âge, mythe ou réalité », un texte d'Anne-Marie Tremblay, paru le 22 février 2025 dans Virage.
Des astuces pour garder la tête froide, un texte de Fanny Arcan, paru le 6 mars 2024 dans la presse. Vous consultez les actualités et une boule se forme dans votre ventre. Entre la guerre tarifaire et celle en Ukraine, vous trouvez les nouvelles angoissantes. Mais il existe des moyens de rester informé sans céder à la panique, assurent des expertes. Apprendre à doser. On s'en doutait, il est nocif pour la psyché humaine d'être constamment bombardé d'informations effrayantes. Si vous lisez la même nouvelle 10 fois dans une journée, votre cerveau l'analyse comme 10 nouvelles différentes, ce qui crée un effet cumulatif de stress, explique Mira Gravel-Crevier, copropriétaire de la clinique d'anxiété de Laval. Psychiatre au CIS de Laval, Claire Gamache suggère d'envisager une diète d'actualité durant des périodes plus anxiogènes. Plutôt que de suivre les nouvelles toute la journée, la psychiatre propose de les consulter une ou deux fois par jour, à des moments prédéterminés, et de choisir des sources d'informations crédibles qui évitent le sensationnalisme. Prendre une pause d'actualité pendant quelques jours peut aussi faire du bien. Mais pas question d'arrêter de s'informer entièrement non plus, souligne Mira Gravel-Crevier. L'évitement est nuisible parce qu'il mène à entretenir des scénarios de catastrophe irrationnelle sans avoir une idée véridique de ce qui se passe. Le secret est dans l'équilibre, explique-t-elle. Résister au pessimisme. Les mauvaises nouvelles peuvent nous faire broyer du noir, surtout lorsqu'elles s'accumulent. Mais il faut résister au pessimisme, selon Geneviève Beaulieu-Pelletier, professeure associée de psychologie à l'UQAM. Plus on a une vision négative de la vie, plus on cesse d'être mobilisé et plus on finit par contribuer à la négativité qui nous affecte, affirme-t-elle. Selon la psychologue, il est critique de continuer à profiter de la vie, même lorsqu'un événement comme la guerre tarifaire perturbe notre quotidien. C'est un peu ça, la stratégie de Donald Trump, d'induire cette grande anxiété, de nous faire sentir impuissants. Rester connecté, c'est la base pour que des mouvements et des solutions se mettent en branle. Et qu'il s'agisse de jouer au basketball, d'assister à des concerts ou de tricoter. Il faut continuer à faire les choses qu'on aime, souligne Geneviève Beaulieu-Pelletier. Si on ne fait pas de choses par pur plaisir, on se coupe d'une vie qui a le potentiel d'être nourrissante. Reconnaître ses émotions. Imprévisible, l'actualité peut susciter toute une gamme d'émotions inconfortables. Et pour les évacuer, il faut d'abord les reconnaître, selon Claire Gamache. Ensuite, on peut décider ce qu'on en fait. Il existe plusieurs façons de libérer une émotion forte. Si c'est de la colère que je ressens, je peux écouter de la musique qui va me défouler, aller m'entraîner ou même crier dans un oreiller si j'en ai envie, énumère Mira Gravel-Crevier. Si on se sent triste ou impuissant, d'autres options s'offrent à nous, comme prendre un bain chaud, pleurer un bon coup ou accepter un câlin d'un proche, souligne la psychologue. Surtout, on doit rester en contact avec les gens qui nous entourent. L'isolement, c'est le facteur de vulnérabilité numéro un. Avoir un mode de vie sain contribue aussi grandement à une bonne gestion du stress. Dormir 8 heures chaque nuit, faire de l'exercice, voir ses amis, passer du temps en nature, il faut retourner à la base, affirme Claire Gamache. Accepter l'incertitude. Selon toutes les psychologues consultées par la presse, il est nécessaire d'accepter ce qu'on ne contrôle pas. On n'a pas grand poids dans les décisions qui se prennent aux États-Unis, mais il faut tolérer cet état-là, souligne Geneviève Beaulieu-Pelletier. Ce n'est pas facile de vivre avec une part d'incertitude, mais notre vie est faite de ça. Accepter l'incertitude ne veut toutefois pas dire qu'on accepte d'être impuissant. Être dans l'action, c'est une très bonne façon d'apaiser ses inquiétudes, souligne Claire Gamache. Participer à un mouvement de boycottage, prendre la parole publiquement et faire du bénévolat sont autant de moyens d'offrir du bon et du beau autour de nous, ajoute Mira Gravel-Crevier. Qu'on agisse de façon individuelle ou collective, notre impact sera différent. Mais quand on est motivé et qu'on ne sombre pas dans le pessimisme, on peut réellement avoir un impact, souligne Geneviève Beaulieu-Pelletier. C'était « Des astuces pour garder la tête froide », un texte de Fanny Arcan, paru le 6 mars 2024 dans la presse.